Bienvenue au Polysécur épisode pour les PME. Je suis avec un quatuor de feu. Parce que je sais compter. Je suis avec Alexandre, Dominique, Nicolas et Cindy. Comment allez-vous?
Top shape, toi?
Super bien.
Et notre invité spécial, Alexandre, parce qu'on fait une série en trois actes sur la résilience, la crise et tout ce que ça comporte, spécialement pour les PME, parce que c'est des entités qui sont mal desservies pour ce type de choses-là, vont apprendre à la dure, bien, puis malheureusement beaucoup trop tard, qu'est-ce qu'une crise et comment la gérer. Fait que, Alexandre, je vais te laisser faire un démarrage et je suis sûr que l'autre trio va intervenir.
OK. Donc c'est vrai que les PME, ça se gère pas du tout comme les grosses entreprises en termes de gestion de crise. C'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes priorités, c'est pas les mêmes règlements. Et donc elles se retrouvent très très facilement dans le trouble lorsque ça leur arrive, parce que tout simplement elles sont pas prêtes, parce que leur priorité c'est pas la gestion de crise, c'est le quotidien là, et ils mettent les moyens sur le quotidien. Donc c'est pas mal une grosse différence par rapport à ça. Sur l'histoire des plans de gestion de crise qui sont normés, qui sont avec des normes genre ISO, etc. Là, c'est peut-être applicable pour les grosses organisations, mais pour la partie des PME, c'est carrément pas applicable. C'est à des années-lumière en fait de leur besoin réel. Hein. Donc, ce qui fait que ça permet de jouer là-dedans pour que ce soit beaucoup plus opérationnel. Et d'ailleurs, c'est franchement plus intéressant de travailler avec une PME qu'avec une immense entreprise internationale qui a plein de pognon et qui fait ça pour répondre en fait à de l'opérationnalité. On a beaucoup plus de retours d'efficacité sur des PME quand toutefois elles sont décidées de le faire.
Donc, non, Dominique, je vais pas faire le vendeur de Babrin et dire c'est pas une question de si, c'est une question de quand. Hein, le fameux discours qui fait peur, mais la réalité reste la réalité et les cyberattaques, il y en a tous les jours. Et puis, ben, ça vient frapper les business là. Je me pose la question encore une fois. Comment est-ce qu'on peut faire quand on a une petite entreprise, pas une grande, donc on n'a pas la chance d'avoir une équipe de cybersécurité, on n'a pas la chance d'avoir des gens de conformité, etc. C'est quoi le bon conseil qu'on pourrait donner pour dire ok, s'il doit rester qu'une seule chose à la fin de la journée, c'est ça qu'il faut faire.
Avant d'aller là-dessus, j'ai encore plus béaba, mais qu'est-ce qui peut se passer? On parle de cyberattaque, on parle de cyberincident, mais je pense qu'il y a des personnes qui concrètement comprennent pas forcément c'est quoi qui pourrait se passer et surtout l'impact que ça a sur l'entreprise.
Sur ça, en fait, la réponse c'est simple, c'est que tant que t'as pas goûté, tu sais pas. Donc la meilleure approche, hein, c'est tu mets le PDG de l'entreprise, de l'organisation et son N-1 là dans l'eau bouillante. Puis tu vois ce qui en ressort.
Donc, pas littéral, s'il vous plaît, pas littéral. Vous n'appliquez pas littéralement ce qui est le conseil. Voilà,
mais l'idée, c'est les mettre face à la situation. Et ça se fait très facilement. Tu sais, c'est un tabletop. Ça peut se faire en une heure. Et puis, on amène en fait le tour de table sur une situation qui bloque l'entreprise et qui bloque l'entreprise sur plusieurs semaines. Donc, ça a pour effet de choquer tout le monde. Et puis, c'est bien là. Et ensuite de ça, une fois que le choc est passé, c'est OK, comment est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est là où on va ressortir ce sur quoi on n'est pas prêt du tout. Donc en une heure, ça donne déjà une bonne vision là de sur quoi on va tomber lorsque ça va nous arriver. Après, dans un deuxième temps, bah, c'est la construction tout simplement du plan de gestion de crise. Mais là encore, c'est un plan de gestion de crise hyper simplifié parce que on n'a pas le temps de passer avec un document qui fait 30 pages. Ça n'a aucun sens. 3 pages dans une PME, c'est amplement suffisant.
Et quand tu dis, tu vois, crise là, est-ce qu'on définit, est-ce que c'est le temps de définir qu'est-ce qui est une crise ou pas de crise, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal, est-ce que tu as des bonnes guidelines, est-ce que c'est un chiffre d'affaires, à partir de quand on dit qu'on arrête, c'est, en fait t'es pour pas faire l'effet Pierre et le loup et puis dès qu'il y a un truc bizarre, hop on démarre une crise quoi.
Non, et puis c'est intéressant ta question parce que oui, des crises, les PME ils en vivent tous les jours, on vit des crises dans les PME. Et c'est devenu un mot valise. Donc, l'assistante qui se casse un ongle, pouf, on est dans une crise. Une machine qui s'arrête, pouf, on est dans une crise. On s'entend que entre la machine qui s'arrête et puis l'ongle de l'assistante, là, le chiffre d'affaires est pas le même derrière. Donc, généralement, ce qui qualifie une crise, hein, c'est l'arrêt de la productivité, l'arrêt du rentrée d'argent, l'arrêt de la capacité de fonctionner ou de rendre le service ou de rendre sa mission. C'est aussi simple que ça, là. Donc, si c'est Simone qui s'est cassé un ongle, Désolé, là, on n'est pas sur une crise. Par contre, la chaîne de production qui vient de s'arrêter, là, très rapidement, tu vas rentrer dans une crise.
Je t'entends parfaitement, Alexandre, mais tu vois, dans nos missions qu'on a, souvent, c'est difficile de reconnaître où il y a de la valeur dans l'entreprise. Qu'est-ce qui fait vraiment mal? Parce qu'on a nos biais cognitifs. Oui, le patron de l'entreprise, il le sait, là. Mais souvent, on a du mal à se dire, ah oui, mais c'est ça qui est vraiment important, c'est là qu'il y a la valeur, puis c'est ça que si jamais on perd ça, ben oui, c'est là où on va pouvoir déclencher une crise. Donc, je pense qu'il y a vraiment un petit exercice, comme tu le dis là, de regardons, faisons-nous un peu challenger pour dire, aïe, à partir de ça, ça va faire mal, puis c'est ça la crise. Ouais. C'est ça notre point de démarrage.
C'est vraiment en fait la mise en situation. Pour moi, là, le plus efficace de tous les trucs entre je fais un business impact analysis, je discute avec les gens, pour vous, c'est quoi les fourchettes dans lesquelles vous êtes machin. Tout ça, là, c'est bien, c'est normé, c'est du 22-301, c'est superbe. Si tu veux être normé, parfait. Mais dans la vraie vie, là, on est vraiment à des années-lumière entre ce que la norme dit et la vraie vie. Et la vraie vie, là, c'est de mettre les gens, et encore attention, dans l'eau tiède, pour pas que des gens se brûlent, mais les mettre en situation. Et très rapidement, les langues se délient. Et des mises en situation comme ça, j'en fais plusieurs dizaines par année, et les langues se délient. Et elles se délient très rapidement. Et l'argent, enfin, parler d'argent rend intelligent. Hein. Quand tu arrêtes ton business, tu n'as plus d'argent qui rentre, là, et toutes les directions, tous les pôles de l'organisation vont très vite voir chacun à leur niveau qu'est-ce qui est réellement important pour répondre en fait à la mission de l'organisation, que ce soit privé, public, on s'en fout là, mais très rapidement ça arrive comme ça. Donc une mise en situation, et puis tu les passes les uns derrière les autres, hein, puis on a une méthode par rapport à ça là, et tout de suite ils vont très très vite trouver qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour eux. Et là vous avez gagné un an de business impact analysis, et vous avez gagné des dizaines de milliers de dollars là, sur des trucs qui au final ne seront pas utilisés quand on fait des trucs dans les normes. Donc, mise en situation, là, et très rapidement, là, pour les PME, et c'est ce que je conseille très fortement, hein, mise en situation, une heure, et en une heure, là, vous avez déjà fait un portrait, là, et après, il n'y a plus qu'à ramasser, à travailler sur la réalisation de ce qu'on a trouvé pour mettre vraiment des procédures par rapport à ça.
Est-ce qu'on gère ça tout seul, si on est une PME, une crise, ou est-ce qu'on devrait quand même avoir quelques numéros de téléphone prêts à intervenir? On a quand même des obligations au lieu de la loi, ça nous arrive. Comment est-ce qu'on gère, justement, ça? Voilà.
Ça, là, c'est en effet en fonction du type de PME, tu vas avoir des obligations vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de tes organismes de tutelle, si tu travailles dans de l'alimentaire versus dans du pharmaceutique, versus dans de l'industrie, versus peu importe où tu arrives, de toute façon, il y a toujours un moment ou un autre, tu vas être confronté à une loi, ne serait-ce que la loi 25. Donc, c'est clair que quand on fait cette mise en situation, il y a plein de choses qui vont ressortir, et là, les obligations légales, réglementaires vont sortir. Et à ce moment-là, bien évidemment, quand on arrive sur un truc en disant, bah tiens, il faut que je fasse une déclaration à la, au truc alimentaire, etc., là, bah, ça va nécessiter que tu aies les coordonnées de ton truc alimentaire pour leur signifier que tu as tel problème, etc. Donc tout ça, là, quand ça pop-up, c'est là où on arrive sur la phase, donc toujours à la préparation, ensuite de ça, de la construction du plan de gestion de crise. On lève les loups, on construit par rapport à ce qu'on a levé, là, et ensuite de ça, on va récupérer ces numéros, ces normes, ces machins comme ça. Mais c'est relativement, au final, simple. Donc avoir des sociétés, et là, on va parler dans un prochain épisode de pendant la crise, hein, comment ça va se vivre, mais c'est clair que si on veut que ça se passe bien pendant la crise, là, t'as intérêt d'être préparé avant. Un exemple flagrant, là, sur la notion d'annuaire de mes parties prenantes, mon assureur, mon fournisseur, etc. Là. C'est très intéressant, quand je mets en place des plans de gestion de crise, hein, il y a un volet annuaire. La récupération des numéros de téléphone peut prendre plusieurs heures en temps de paix, parce que c'est éparpillé à droite à gauche, les numéros de contrat, les ci, les ça. Donc imaginez si l'informatique est indisponible, hein, pour récupérer les numéros, faut aller sur l'annuaire, machin, faut grenouiller. Donc si en temps de paix, ça te prend plusieurs heures pour le faire, imagine en temps de crise. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut faire popper. Et là aussi, mise en situation. Quand on me dit, ah bah tiens, il faut que j'informe mon drug and food, là, comment est-ce que je fais par rapport à ça? Trouve-moi le numéro, si t'as plus d'informatique, comment est-ce qu'il faudrait faire? C'est là où on commence à voir... Ah ben, je sais pas trop, il faudrait que j'aille là, mais par rapport à ça, j'ai un numéro de fournisseur, machin, etc. Là, et tout ça, on le perd.
Et si je lis entre les lignes, là, ça voudrait dire que Tu voudrais faire une sorte de document où on écrirait nos numéros dans une seule base, là, dans un petit truc, plutôt que d'avoir ça dans nos systèmes perdus dans des milliers de contrats à gauche et à droite.
Sur le réseau souvent, inaccessible en cas de ransomware.
Ou sur le réseau qui ne marche plus.
C'est la fameuse 3-2-1-1-0, tu sais, trois copies sur deux supports différents, une externalisée, on teste la sauvegarde, là c'est le 1, et puis zéro erreur quand on fait les jeux de sauvegarde. Pour les papiers, les numéros, c'est exactement la même chose. C'est les numéros importants, les partenaires importants, là, je veux dire, tout ce qui est important pour la gestion de crise, tu devrais avoir systématiquement une copie qui est externalisée de tes systèmes, clé USB chiffrée ou peu importe, on s'en fout là, et puis avoir une traçabilité papier. Nous, ce qu'on réalise, hein, c'est généralement des cartes réflexes, c'est-à-dire que tes deux premières heures de ta crise sont sur un document 8,5-11. À partir de ça, là, tu es en capacité de gérer ta crise sur tes deux premières heures. 8,5-11, je veux dire, c'est pas compliqué. D'accord. Donc, c'est très simple à faire par rapport à ça. Après, va se poser la problématique de la confidentialité, parce qu'un papier, on s'entend qu'en termes de chiffrage pour un papier, c'est un peu plus compliqué. Mais là, après, il y a une responsabilité à avoir. L'usage de clés USB, ce genre de choses-là, peut être très, très pertinent aussi.
Le risque zéro arrivera pas, là, je veux dire.
Non, le risque zéro n'arrivera pas. Et puis, de toute façon, sincèrement, les numéros de téléphone de tes parties prenantes, elles sont un petit peu partout éparpillées. Ton numéro de contrat ou de client, je veux dire, c'est pas non plus dramatique. Puis tu pourras le changer. Je veux dire, pas grave si tu te fais piquer ton papier. Là, c'est un peu gênant, mais tu vas pouvoir te gérer.
En gros, c'est comme...
Mais ce que tu vois, je pense que ça c'est un bon conseil à donner, d'avoir même papier dans un cartable posé sur le bureau à quelque part pour avoir au moins ces numéros. Mais ça me fait penser au plan d'évacuation où
est-ce que j'allais dire bâtiment, ouais. Test incendie,
on a ça, c'est déjà écrit, on a le plan d'évacuation est déjà écrit, en tout cas on sait où le trouver, puis même c'est ce que font les pompiers, ils vont l'arracher. Puis ils vont pouvoir être capables de le voir. Donc, ça me fait penser à ça. Et je pense que c'est une bonne idée, un bon conseil à donner, de dire, faisons une carte réflexe au minimum pour au minimum se préparer une fois qu'on a identifié.
Mais les gens ont fait ça avec leur master key one password, right? Ils l'ont imprimé, ils l'ont genre plastifié, puis ils l'ont mis dans un coffre-fort. Fait que, tu sais, techniquement, c'est rien de nouveau, right?
Non, c'est rien de nouveau.
C'est rien de nouveau, right? Okay, on est en même page. Parfait.
C'est ça. Il n'y a rien de nouveau dans ça. C'est le papier. Mais il y a une mode zéro papier, machin, etc. Donc, on se passe du papier, tout ça. Bon, OK, youpi. Mais n'empêche que le papier, là, ça dure longtemps. Vous savez, je travaille beaucoup sur des impacts blackout, attaques IEM, ce genre de trucs-là. Autant dire que l'électronique, derrière ça, là, il n'y a plus d'électronique. Ça s'arrête là. Donc, ton papier, ta clé USB et tout. Enfin, ta clé USB, ton système, etc., là, c'est foutu, tu le récupéreras pas parce que de toute façon, ça a fondu. Donc, la seule chose qui va te rester, c'est du papier. Bon, maintenant, dans le cas d'un blackout qui prend la province, là, avec ton bout de papier, tu vas te sentir un peu seul. Mais en tout cas, tu seras en avance par rapport aux autres, un petit peu.
Et j'ai encore une question pour toi, Alex, là, quand on parle de ça, là. On fait notre premier exercice, on a vu nos essentiels, on a un peu imaginé qu'est-ce qui pourrait arriver un peu de grave, là. On a nos listes de parties prenantes. Est-ce qu'il faut faire une revue de cette petite fiche réflexe, là, comme tu dis? Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait une fois à la création de l'entreprise, puis that's it? Ou est-ce qu'on se doit de faire un peu de maintenance? J'ai la réponse, mais je te titille là-dessus.
La réponse est évidente, bien sûr qu'il faut le faire. Après, c'est à quel rythme on fait l'actualisation de ça, d'accord? Le standard, c'est une fois par année, d'accord? Une révision par rapport à ça, d'accord? Moi, ce que j'ai tendance à dire, deux fois par année, c'est mieux là. Ça va permettre de garder un certain momentum. On peut y aller une fois par mois. Ça aussi, ça peut être intéressant, et c'est ce qu'on a développé sur le fait d'avoir des outils qui permettent de faire des exercices en 15 minutes sur un thème particulier que tu choisis. Et tu te génères toi-même une situation de crise et tu vas actualiser. Et tu vas décider, tiens, tel jour, c'est une attaque de mulot, et puis je vais simuler une attaque de mulot, et puis je vais répondre à ça par rapport à ça. Et à l'issue de ça, en 15 minutes, tu as actualisé ton plan. Et puis, en même temps, tu t'es fait une nouvelle fiche réflexe sur l'attaque du mulot. Et puis, le mois d'après, tu vas te faire une grève ou je sais pas trop quoi, là. Et puis, tu vas jouer ta crise pendant 15 minutes et puis, hop, tu vas te générer une fiche. Ça, là, je veux dire, il y a l'actualisation du groupe complet mise en situation une fois par an, qui est une simulation, un tabletop, appelez-le comme vous voulez, où là on va regrouper tout le monde, ça va être quelque chose de conséquent sur 3 heures d'exercice par exemple, mais tous les mois t'es en capacité de faire un exercice, un micro-exercice de 15 minutes. Et l'idée là-dedans, c'est de conserver le momentum. Faut bien comprendre que tous ces gens-là qui ont des PME là, ce sont pas des gestionnaires de crise. La crise, ça les emmerde. Ils savent pas ce que c'est là. Il y a aucun intérêt pour eux. Ils ont d'autres problèmes à faire tourner leur boutique hein, pour que ça fonctionne, avoir de l'argent qui rentre chaque mois, etc. Si on vient leur dire, eh ben écoutez, tous les mois on va faire 3 heures d'exercice, ils vont dire ouais, mais c'est 3 heures de business que je perds pour tes bêtises. Par contre, garder un momentum de 15 minutes, hein, ça c'est vraiment parfait parce que ça se fait très rapidement. Peut-être tu roules en voiture et puis tu te mets un scénario. Il y a des possibilités comme ça. Je veux dire, tu es dans le bus ou dans le transport, peu importe, et puis tu te lances un petit scénario. 15 minutes, ça se fait comme ça. Mais ce que ça génère au niveau du cerveau, c'est d'amener en fait une certaine résilience continuelle et tu vas avoir des connexions dans ton cerveau qui vont te permettre de dire « Ah tiens, s'il m'arrive ça, je trouve la solution quasiment tout de suite. » Et ça, ce gain-là, de temps-là, qu'on gagne, est hyper important pour une PME parce que tu peux pas te permettre d'attendre, hein, parce que plus tu attends, plus ça a un impact sur la fin de ta PME. Puis une PME, c'est difficile à construire, c'est très facile à perdre.
Ah, puis il faut se communiquer bien, en plus de gérer le stress, puis tout, ça va être notre prochain point, ça va être bon, comment qu'on manage ça, là, tout brise. Mais en plus de prendre les bonnes décisions, il faut que tu communiques bien, puis que tu gères les personnes, puis il y a tout l'autre côté qui vient, en plus de gérer ton toi-même.
Ouais, ça on n'a pas parlé de la communication en tant que telle, mais ça aussi ça fait partie des points sur les premières heures, savoir bien communiquer pour occuper le terrain dès les premières heures, parce que sinon si t'occupes pas le terrain, tu vas te faire laminer par les autres qui vont.
Exactement.
Oui, et c'est l'occasion de terminer ce volet-ci pour passer à l'acte 2. Donc je vous remercie de cette collaboration-là, puis on va passer à l'acte 2 qui va justement aller dans le feu de l'action, justement dans l'eau bouillante. Fait que sur ça, je vous remercie énormément.
Merci.
Bye. Merci.